avec moi vos Bibles et nous allons nous arrêter sur une parole que le Saint-Esprit met dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, et qui est destinée à donner à l'Église des Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, eh bien, ce qui pourrait constituer un rappel de mémoire, mais aussi en même temps comme une base de données afin de bien régler leur vie et leur marche dans un but que je qualifierais de productif. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela tout à l'heure. Mais déjà, faisons la lecture dans 1 Corinthiens et regardez avec moi le chapitre 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin. Amen. Jésus est au milieu de nous, comme le centre de ce rassemblement, et le travail du Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ, vous le savez, puisque Jésus est au milieu de nous, et de nous donner à fixer les yeux de nos cœurs sur le centre de ce rassemblement, c'est-à-dire sur notre Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, mais en même temps, la tête du corps, de ce corps qu'est l'Église, dont nous sommes les membres. Le chef suprême est la tête. Et quand on regarde Jésus, fixant nos yeux sur lui, eh bien, il y a un travail du Saint-Esprit qui nous donne et nous place dans l'importance de nous placer, de nous mettre sous sa dépendance et en même temps que les oreilles de nos cœurs soient bien ouvertes pour entendre ce qu'il a à nous dire. Mais en même temps que les oreilles de nos cœurs soient bien ouvertes, notre intelligence soit renouvelée pour comprendre ce qu'il veut nous communiquer. Et après notre intelligence renouvelée, nos cœurs bien disposés à recevoir, mais après que je l'ai reçu, je laisse pas s'en aller. Hop, la couverture se referme. Et ça demeure à l'intérieur. Et ce que j'ai entendu de Jésus, ce que j'ai compris par mon intelligence renouvelée, et ce que j'ai gardé au fond de mon cœur, alors le Saint-Esprit entrera en action pour m'amener à le pratiquer. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de choses, frères et sœurs en Christ, qui sont mises en place et dans lesquelles Dieu voudrait que je puisse non seulement être introduit, mais avoir ma part, une part active. Gloire à Dieu. Bien. Lecture de la parole de Dieu que nous ferons dans, comme je viens de vous le dire, 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que nous y lisons? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc c'est une question, n'est-ce pas? Une question. Et après il continue pour ouvrir un champ de nous donner des explications en rapport avec ce que nous venons de lire premièrement. Car vous avez été, dites avec moi, rachetés à un grand prix. Alors, à cause de cela, voilà la conséquence directe, conséquence qui doit en découler. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, que ce que nous venons de lire là, ce texte que nous venons de lire, eh bien écoutez, laissez-moi vous dire que si nous voulions nous arrêter, il y a au moins pour 6 mois d'enseignement. Je vous le dis. Parce qu'au travers simplement de ça, le Saint-Esprit pourrait ouvrir plusieurs volets. Et chaque volet ferait en lui-même presque une étude biblique. Tellement il y a de la richesse qui découle de ce que nous venons de lire. Mais Comme le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous donner à aller à l'essentiel. Alors nous allons comprendre que ce que nous venons de lire, ouvrir le champ de notre méditation, constituerait pour nous ce matin, comme de la part de notre Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ et dans l'action du Saint-Esprit, ça constituerait en quelque sorte comme un rappel, ne savez-vous pas? Un rappel, et ce rappel serait en quelque sorte une réalité divine. Le rappel d'une réalité divine, ne savez-vous pas? Destiné premièrement à authentifier le dessein de Dieu pour nos vies. Je vais y venir tout à l'heure. Mais simplement, dans ce que je vous dis, nous sommes dans le moment de la mise en place. Le Seigneur met en place le sujet. Un rappel de cette réalité divine destinée à authentifier le dessein de Dieu pour nos vies. Premièrement, et deuxièmement, comme une base de données spirituelle, pour que la connaissance, cette connaissance, eh bien, soit le moyen de construction de nos vies d'enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la mise en place est faite. Maintenant, nous allons construire dessus. Dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens, si vous lisez l'ensemble du chapitre, vous allez voir, frères et sœurs en Christ, que cette expression du verset 19, « Ne savez-vous pas ?» est répétée 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois l'expression est répétée. Ne savez-vous pas? Et comme je viens de vous le dire, c'est comme un rafraîchissement de nos mémoires pour nous rappeler quelque chose que Dieu a mis en place et qui doit être la part de l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, comme une réalité dans laquelle Dieu nous a introduits et qui progressivement va nous conduire vers quelque chose qui devra s'accomplir dans le futur. Ça, vous le lirez chez vous, hein. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il fait le rappel « Ne savez-vous pas ?», c'est pour nous amener, frères et sœurs en Christ, à une réalité spirituelle divine établie par Dieu, mais dans laquelle nous avons été introduits. Mais lorsque nous arrivons au verset 19, il va élargir le champ et nous rappeler « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Ça, c'est merveilleux. Dieu a fait de mon corps un temple. Mais le temple du Saint-Esprit, qu'il a fait habiter en moi. Et pour pas qu'il y ait d'équivoque, qui est en vous, et que vous avez reçu. Vous l'avez reçu de Dieu. Donc ça veut dire que si Dieu a mis quelque chose en moi, mais il a constamment les yeux sur moi, sur son Saint-Esprit qui est en moi. Et à partir de ce fait, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Ça veut dire que dans ce cadre-là, le rappel m'oblige à comprendre que je ne m'appartiens plus à moi-même. Or, si je ne m'appartiens plus à moi-même, à qui j'appartiens ? J'appartiens à celui qui a mis son esprit en moi. Là, nous sommes sur le terrain, frères et sœurs en Christ, ô combien important, de la nouvelle naissance. Qui n'est en rien une amélioration de ce que j'étais dans la chair avant de connaître Jésus-Christ. Mais un travail spirituel qui a pris effet en moi quand j'ai cru pour le salut, quand je me suis repenti, quand je me suis converti, quand j'ai expérimenté la nouvelle naissance qui m'a conduit à passer par les eaux du baptême pour obéir à celui qui est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Et pour ce faire, mes frères et mes sœurs, que vous ne vous appartenez point à vous-même, que va-t-il faire pour bien mettre les choses à leur place? Le verset 20. Dans le verset 20, qu'est-ce qu'il fait? Car vous avez été rachetés. Alors il nous place sur ce terrain ô combien important pour vous, comme pour moi, qui est le point de départ de toute vie comme enfant de Dieu. Il nous place sur le terrain, dites avec moi, de la rédemption. Le terrain de la rédemption qui n'est pas autre chose que le rachat par le paiement d'un prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et je ne peux dissocier la rédemption qui est le rachat par le paiement d'un prix, ni de la propitiation, ni de la justification, ni de l'expiation, ni non plus de l'adoption. C'est une chaîne de référence des actes rédempteurs dont Dieu m'a favorisé en son Fils Jésus-Christ. Vous savez comme moi que la loi disait que sans effusion de sang, il n'y a pas de... Mais oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est quelque chose qui découle de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu. Il fallait que le sang d'un innocent coule pour que nos péchés soient pardonnés. Et Jésus a payé le prix de notre rachat à nul autre pareil, car c'est lui seul qui pouvait réaliser cette grande œuvre de rédemption dans laquelle Dieu nous a introduits pour la gloire de son nom. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, un rappel, tous ceux qui découlent pour nous de l'œuvre de Jésus-Christ, tous ceux dont nous sommes bénéficiaires, et qui va nous amener à la dernière parole, frères et sœurs en Christ, la déclaration du verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, voilà la conséquence qui doit en découler, qui devrait en découler, et sur laquelle Dieu va nous arrêter ce matin. Quelle conséquence, pasteur Gentil? Eh bien, lisez l'Écriture. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et si vous voyez comment le Saint-Esprit expose la pensée, comment l'apôtre est conduit à parler, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Que fait-il? Eh bien, le corps, c'est moi, je le vois, n'est-ce pas? Mais il va partir de l'extérieur pour amener vers l'intérieur. Vous me suivez toujours? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous suivez? Bien. Donc, il part du corps, donc le corps, ce qu'on voit, mais il amène vers l'intérieur. Pour nous montrer, frères et sœurs en Christ, qu'il y a une incidence entre mon esprit, où se forment les pensées, et surtout, où avec moi s'associe le Saint-Esprit, car si le Saint-Esprit n'est pas associé à mon esprit pour gouverner ma vie, eh bien, je ferai ce que je veux. Mais lorsque, c'est pourquoi c'est très important, je vous ai bien pris soin de montrer l'importance de la mise en place. Et dans la mise en place, vous avez vu comment Dieu a insisté sur le fait que nous avons reçu de lui le Saint-Esprit, principe de la nouvelle naissance. Car si je ne suis pas né de nouveau, je ne peux pas réaliser ce que je lis là. Dieu ne peut pas être glorifié en moi si je ne suis pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas né de nouveau, ma vie chrétienne ou la vie que j'appellerai chrétienne sera gouvernée fort souvent par mes sens naturels. Ma vue, mes oreilles, et tous les sens naturels vont se mettre en place. Mais Dieu n'a que faire de mes sens naturels. Dieu sera glorifié en moi par rapport au travail du Saint-Esprit qui s'associe à mon esprit. Écoutez, c'est pas compliqué. Nous prenons le psalmiste David, homme de Dieu, qui dans une tranche de son existence, malheureusement, s'est laissé emporter par ce qui ressemble fortement à de la folie. et qui a été entraîné dans un engrenage indéfectible, un aveuglement qui a accompagné, de telle manière que commettre un meurtre lui a paru comme une futilité. Vous connaissez l'histoire de David. C'est dans ce cadre-là que il a été conduit dans la repentance à écrire le psaume 51. Et dans le psaume 51, il dit à Dieu, regardez bien, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né tout entier dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du corps, au fond du cœur. Qu'est-ce qu'il dit après? Alors, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça veut dire qu'il reconnaît que lorsqu'il a commis cette infamie, il a manqué de sagesse. Et lorsqu'on manque de sagesse, on manque de discernement. Parce que moi, la sagesse, c'est pour demeure la réflexion. Je possède pour science le discernement. Il a manqué d'intelligence. Et tellement qu'il a été aveuglé dans son action, que commettre un meurtre lui a paru comme une futilité. Parce que logiquement, le meurtre qu'il a commis devait lui apporter aussi la mort. Voilà pourquoi il dit à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ailleurs, il dira, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et toujours dans les conséquences qui découlent de sa repentance, il va demander à Dieu qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parce que lorsqu'il a commis l'infamie, on aurait beau lui dire tout ce qu'on veut, il y avait un seul objectif qui s'était fixé, c'est de détruire Uri le Héthien pour prendre sa femme et couvrir sa faute. Mais là, il n'a pas du tout pratiqué ce que, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui à pratiquer parce que nous sommes nés de nouveau. Des œuvres dignes de la repentance. Mais quand il a compris son erreur, eh bien, il va dire à Dieu, « Et j'enseignerai ce qui est droit devant toi à mes concitoyens. » Ça veut dire qu'il va avoir maintenant une autre attitude que ce qu'il a eu. Des fois, on peut commettre des erreurs. Et les erreurs que nous commettons peuvent avoir de graves conséquences. Mais lorsqu'on se tient devant Dieu, qu'on lui demande pardon, qu'on se repent de ses péchés, alors vous savez ce qu'il fait? Non seulement il nous pardonne, mais il a cette capacité en tant que notre Père de nous réhabiliter et de nous donner à tirer un profit merveilleux des erreurs commises, des fautes passées, et il va utiliser aussi cela comme un moyen pour mieux nous affermir. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, nous sommes sur le principe, frères et sœurs en Christ. Je vous ai dit qu'il part de l'extérieur le corps pour amener à l'intérieur l'esprit. Vous savez que notre esprit, à nous, comme enfants de Dieu, il est absolument fondamental, notre esprit, dans notre fonctionnement comme enfants de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que fort souvent dans mon esprit, c'est là que se forment les pensées. Et quand une pensée se forme dans mon esprit, s'installe dans mon cœur, obligatoirement, si je pense quelque chose, si quelque chose est arrêté dans mon esprit, qu'il est venu dans mon cœur, ça va déterminer mes actions. Quelqu'un a dit avant moi, je pense, donc je suis. Et fort souvent, frères et sœurs en Christ, les pensées qui traversent mon esprit, qui s'installent en moi, mais si elles sont alimentées par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu, eh bien, elles vont me donner à harmoniser ma vie d'après l'Écriture. Mais si ce sont mes pensées humaines, la pensée de ce que quelqu'un a dit, qui s'est installé en moi, eh bien, automatiquement, je vais agir à l'encontre des Saintes Écritures. Je vais marcher à contre-courant de ce que Dieu veut pour ma vie. D'où l'importance que l'association entre mon esprit et le Saint-Esprit soit une réalité. Et quand cette réalité est établie en moi, alors là, je peux travailler pour glorifier Dieu. Quand finalement, c'est pas moi qui vais glorifier Dieu, mais le Saint-Esprit en moi va agir pour que Dieu soit glorifié au travers de ma vie. Donc ce que je vous dis là ce matin, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, hein, mais c'est un travail dans lequel Dieu veut nous introduire. S'il est déjà introduit en toi, mon frère, béni soit Dieu. Mais s'il est encore dans ce cadre-là du progrès à faire, alors Dieu va t'aider parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il va nous donner une base de données, hein, pour harmoniser nos vies avec sa parole. Alors, regardez avec moi. J'ai noté quelques points. Ça va produire deux choses. Ce sera le principe de la marche en nouveauté de vie, mais aussi pour glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit, ce sera le moyen pour le Saint-Esprit de me donner à porter du... Oh, à porter du fruit. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a parlé dans ce qu'on appelle le semeur et la semence dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 33. Il va parler du royaume des cieux comme un semeur qui est sorti pour semer, et lorsqu'il est sorti, il y a quatre endroits où la semence tombe. Et dans les quatre endroits où la semence tombe, chaque fois il y a quelque chose de différent. Le premier endroit, c'est le long du chemin. Mais il va expliquer après aux disciples que lorsque la semence tombe le long du chemin, eh bien, les oiseaux viennent. Et puis ils ravissent la semence, ils la mangent. Donc une semence mangée est une semence improductive. Je dirais même, elle a existé, mais très peu de temps. Deuxième endroit, c'est dans les endroits pierreux. Endroits pierreux, ça prend racine tout de suite. Mais comme les racines ne sont pas profondes, dès qu'il survient une tribulation, eh bien la semence est étouffée et sèche. Troisième endroit, c'est avec des ronces et des épines. Les ronces et les épines, c'est quelque chose qu'on ne sème pas, mais qui pousse de soi-même, mais qui pousse avec une grande rapidité. Et en poussant avec une grande rapidité, automatiquement, s'il y a quelques grains qui sont tombés, ces grains-là sont vite étouffés. Et puis la quatrième catégorie, c'est là où Dieu veut que la semence, sa semence tombe dans nos cœurs. C'est la bonne terre. La bonne terre, c'est le terrain du cœur qui est nettoyé, qui est labouré, qui est prêt à être ensemencé. Alors, lorsque la semence tombe là, un grain porte 30, un autre grain porte 60, et l'autre grain porte 100. Alors, imaginez que dans le terrain préparé, Dieu envoie une poignée de semences, et que là, par bonheur, dans ce cœur-là, dans ce terrain-là, disons, il tombe une vingtaine ou une cinquantaine de graines. Combien de fruits tu vas porter pour la gloire de ton Dieu? Comment Dieu sera glorifié dans ton cœur et dans ta vie? Jésus nous a rapporté, frères et sœurs en Christ, quelque chose d'important dans ce cadre-là. Et nous allons voir comment Dieu peut être glorifié dans ton cœur comme son enfant. Dans l'évangile de Jean, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, toujours dans l'optique de porter du fruit, pour glorifier Dieu. Dans Jean, le chapitre 15, prenons le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera, alléluia, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais avant d'arriver à cela, Jésus avait bien pris soin d'expliquer une des règles pour porter beaucoup de fruits, c'est parmi les versets premiers, Jean 15, verset 1er, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, dites avec moi, il le retranche. » Est-ce que Jésus l'a dit, oui ou non? Est-ce que Jésus l'a dit, oui ou non?
Oui, il a dit. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, d'avec moi, il l'émonde. Et le but, c'est quoi le but de l'émondage? Afin qu'il porte encore plus. Ça veut dire que dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, pour que Dieu soit glorifié, eh bien, il faut que, comme son enfant, j'accepte qu'il m'émonde. Et vous qui faites un petit peu de jardinage, si vous plantez quelques pieds de tomates près de chez vous, automatiquement, ça va nécessiter que vous puissiez comprendre qu'il y a un moment où, dans le développement de votre pied de tomate, vous allez voir des branches qui sortent. Et en sortant, ils poussent très vite. Ce sont des branches qu'on appelle les gourmands. Pourquoi? Parce qu'ils prennent beaucoup de place et demandent au pied beaucoup de sève, donc d'énergie. Donc le travail de celui qui fait le jardinage va consister à tailler les gourmands pour que la sève circule comme il faut dans le tronc et aille vers les branches où il y a déjà le commencement des fleurs pour préparer les... D'accord. Vous êtes des bons potagers, pas des potagers. Vous êtes des bons jardiniers. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un travail, mais c'est le même principe que le Père va adopter pour que je puisse porter encore plus. Mais encore faut-il que j'accepte de me laisser émonder. Et dans cet aspect de nous émonder, frères et sœurs en Christ, Dieu va nous débarrasser de tout ce qui est en nous, voudrait se montrer. Ça veut dire que ce sera son travail comme notre Père d'empêcher le développement de notre nature orgueilleuse qui veut toujours paraître, montrer, se montrer, exister, mais il va toujours essayer de paraître au détriment d'un autre. Car finalement, qu'est-ce que Dieu veut ce matin comme mon Père? Que de plus en plus, je sois à l'image de son Fils Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, dans sa marche, pourtant il pouvait se montrer, il pouvait exister, il pouvait se glorifier. Non, Jésus a toujours agi pour glorifier le Père. Et si le Saint-Esprit est en moi, c'est le même principe qu'il va entreprendre pour que de plus en plus Dieu soit glorifié en moi par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ça a l'air de rien, mais ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est absolument important. Et si le Saint-Esprit ce matin nous amène sur ce terrain-là, c'est parce que Dieu voit que dans ce cadre-là, nous avons encore beaucoup de choses à voir, à revoir, à corriger et à amender en nous comme ses enfants. Premier moyen de porter du fruit, me laisser émonder par Dieu. Je me livre entre tes mains ce matin, Père. Que tu fasses ton œuvre en moi pour que de plus en plus, le caractère, les sentiments qui étaient en Christ se développent en moi par le Saint-Esprit pour que je puisse, mon Seigneur, porter du fruit pour la gloire de ton nom. Vous savez, frères et sœurs en Christ, dernièrement, je regardais le texte de l'épître de Paul aux Philippiens et je regardais comment le Saint-Esprit, dans Philippiens le chapitre 2, pourra dire au travers de la bouche de l'apôtre, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Et puis il va montrer quelque chose qui est fondamental, comme quelque chose qui s'est passé, accompli en Jésus d'une manière magistrale, merveilleuse, glorieuse, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec le Père. C'est bien, mais la Bible nous dit qu'il a pris une forme de serviteur, il n'a pas avoir paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Donc, il y a plusieurs degrés dans l'abaissement jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, processus de l'élévation, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors je me suis laissé aller regarder derrière ce mot sentiment. Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Et j'ai vu que le sentiment, il y a 5 sentiments fondamentaux qui se manifestent dans l'être humain que vous êtes, que je suis. C'est la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Oui, mais c'est pas ça que le Saint-Esprit va développer en moi. Il dit les sentiments qui étaient en Christ. Ça, c'est ce qui se passe dans ma nature, ce que je viens de vous dire là. Les sentiments qui étaient en Christ, alors je n'ai pas besoin de faire des gymnastiques spirituelles, je n'ai qu'à lire l'Écriture et je regarde Jésus en action. Dans tout ce à quoi il a été confronté, une seule chose avait de l'importance, que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'il soit confronté à la joie, qu'il soit confronté à la tristesse, à la peur, à la colère, au dégoût ou à la surprise, Jésus a toujours agi pour ne pas laisser ce qui est humain dominer sur ce qui était divin. D'abord, pratiquement, tout était divin en lui. Donc nous comprenons, vous et moi, pourquoi dans la vie de Jésus, il n'y a jamais eu de faille. Et lorsqu'il peut sembler avoir une faille dans l'évangile de Jean, chapitre 12, où il est confronté à quelque chose, dit « c'est pour cette heure que je suis venu, mon âme est trouble dans de moi », mais ce n'est pas autant un trouble qui était humain, c'est un passage. Et derrière cela, il va dire « Père, glorifie ton nom ». Et la voix se fera entendre « Je l'ai glorifié, alors je le glorifierai encore ». Et il y a quelque chose de particulier dans la vie de Jésus, c'est que Dieu a été glorifié dans sa mort. Alléluia. Première règle pour porter du fruit. L'émondage. Mais cet émondage ne peut être véritable et important que si je suis planté. Ah ben oui, quand je ne peux pas planter quelque chose, je ne peux pas émonder quelque chose qui n'est pas planté. Mais oui. Alors, regardez avec moi dans le psaume 92. Psaume 92, verset 13 à 16. Et que Dieu permette que dans ce que je lis, je me retrouve. Il faut que je me retrouve dans ce que je lis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être le miroir de mon âme. Et s'il y a des choses qui manquent, Dieu va me donner à travailler pour les acquérir. C'est ça le principe de la vie chrétienne. C'est avoir la connaissance, mais que cette connaissance me conduise à une acquisition, une possession, pour pouvoir en tirer le bénéfice. Alors, regardez, psaume 92, verset 13. L'injuste croisse comme le palmier et s'élève comme le cèdre du Liban. Ce sont deux arbres, frères et sœurs en Christ, qui ont cette particularité, c'est de pousser droit et haut. Mais oui, ils poussent droit et haut. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Verset 15, lisez le verset 15, il porte du fruit dans la vieillesse. Il porte encore du fruit dans la vieillesse. Il porte encore du fruit dans la vieillesse. Vous dites amen? Faut pas dire amen, hein. Faut dire amen à ce qui est écrit. Il porte encore, non pas du, mais des fruits. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Il y a une variété. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et s'il porte des fruits, c'est que malgré la vieillesse, ils sont pleins de sève. Et tout fanés. Non, verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, le témoignage. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité.
Alléluia.
Alors, frères et sœurs en Christ, quand je lis ça, je dois vous poser une question. Où sont les justes ce matin? Vous êtes sûr que vous êtes juste? Rassurez-vous, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, mais je vois que vous êtes tellement hésitant. Non pas que j'en doute. Mais quand je dis où sont les justes ce matin, mais comme il y a comme un ressort qui devait alimenter votre bras. Mais si le ressort alimente le bras, c'est là qu'il y a une réalité dans le cœur. Alors je repose la question. Oh, je sais que les bras vont se délier maintenant parce que je vous ai fait. Où sont les justes ce matin? Nous avons été lavés, nous avons été purifiés, mais nous avons été aussi justifiés devant Dieu et au moyen du sang de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je suis juste, mais comme juste, nous avons vu ce qui découle après, planté dans la maison de l'Éternel. Nous sommes sur le terrain que nous définirons comme étant l'image de la fidélité. Et nous comprenons pourquoi plus tard le Saint-Esprit dira dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez donc pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand je suis planté dans la maison de l'Éternel, il y aura toujours ce désir en moi comme un aimant qui va m'attirer là où Dieu m'a planté. J'ai ma maison, c'est vrai, mais quand il faut venir rendre le culte à mon Dieu, je ne vais me laisser ni retenir, ni freiner par quoi que ce soit. C'est le temps que je dois venir rendre le culte à mon Dieu. J'ai du zèle. C'est pas un zèle de ma chair, c'est le travail du Saint-Esprit parce que je suis. Vous allez trop vite. Revenez à l'original. Vous avez été racheté à un grand prix. Savez-vous pas que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu? C'est le principe de la nouvelle, parce que je suis né de nouveau. Ce zèle en moi, pour être là où Dieu veut que je sois, pour lui rendre le culte, pour être fidèle à mon assemblée, parce que je suis né de nouveau. Ça découle de la nouvelle naissance. Alors si je suis pas né de nouveau, l'ennemi va travailler dans mon esprit, mais quand même Claude. Oh, mais tu es toujours à l'assemblée, mais reste un peu à la maison. Et dans ce cadre-là, frères et sœurs, vous savez ce que Satan fait? Il met même dans le cœur de certains, il leur insuffle. Et ce qui me dérange, c'est que ce qui leur a été insufflé par l'ennemi, ils le confessent. Je prends du recul. Est-ce que tu as déjà vu dans les Saintes Écritures, Jésus prend du recul? S'il n'avait pris du recul, ton âme ne serait jamais sauvée. Mais Jésus n'a jamais pris de recul. Il est allé jusqu'au bout. Alors si Jésus est allé jusqu'au bout, moi le recul, je le rejette. Et parce que je rejette le recul, alors le Saint-Esprit met dans mon cœur, à la place du recul, la persévérance. Ne jamais abandonner mon assemblée, parce que je suis planté dans la maison de l'Éternel. Fidélité. Mais l'autre règle là, importante pour porter du fruit, si je suis planté, si je suis fidèle, eh bien, automatiquement, il y a aussi à définir, étant planté dans la maison de l'Éternel, ce que me dit le psaume premier. Heureux tout homme Qui fait quoi? Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, met en évidence l'importance d'une vie de sanctification, de séparation. Regardez avec moi le psaume premier. Heureux l'homme, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, sa parole. Et toutes les promesses qui s'y rattachent. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, voilà l'arbre encore, planté. Où? Ah, près d'un courant d'eau. Et pour moi, le meilleur courant d'eau, ce n'est pas la Seine. Hein. Ça, c'est bien. C'est bien, il y a même des gens qui revendiquent d'avoir un appartement avec vue sur la Seine. D'autres revendiquent d'avoir un appartement, une maison avec vue sur un fleuve ou une rivière. Ou... Ça, c'est bien. Mais tu peux avoir 1000 vues sur la Seine si tu veux. C'est pas ça qui va te faire porter du fruit. Hein. Mais quand tu es planté auprès du courant d'eau des Saintes Écritures, alors voilà ce qui va en découler. Tu vas donner ton fruit en sa saison. Ton feuillage sera, ne se flétrira point. Ensuite, tout ce que tu fais dans le plan de Dieu, attention, hein, il faut être clair dans ce que nous lisons. On va dire, tout ce que je fais va me réussir. Alors je vais entreprendre par là, je vais faire ci. Non, tu feras, la réussite te sera assurée quand tu seras dans le plan de Dieu. Il faut être intelligent dans ce que nous lisons. Hein. Donne son fruit en sa saison, dans le verre, ne se flétrit point, tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille, qui se dissipent, etc. Alléluia. Première règle pour porter du fruit, se laisser émonder. Deuxième règle, être planté. Mais planté où? Dans la maison de l'Éternel, fidélité. Mais aussi auprès du courant de sa parole. Le feuillage sera toujours ouvert. Pourquoi? Parce que les racines de là vont aller chercher dans le courant d'eau ce qui est essentiel pour avoir une sève consistante. Et la sève consistante va circuler dans les feuilles pour amener dans un premier temps que les feuilles soient toujours vertes. Les feuilles de l'arbre nous parlent des œuvres. Plus tu es planté dans les Saintes Écritures, plus tu es planté dans la parole de Dieu, plus Christ est planté en toi, alors plus tu vas pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ce sera pour toi signe de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie. Vous en voulez encore? Qui c'est qui a dit « Ah, bien sûr ». Vous êtes gourmand, dis donc. Non, mais c'est pas fini parce que il y a tellement à dire, comme je vous ai dit, que certainement nous faisons aujourd'hui qu'une ébauche. Et après, nous allons, selon ce que Dieu permettra, revenir dessus. Alors, nous avons vu la première règle pour porter du fruit, c'est l'émondage. La deuxième règle, c'est, comme je viens de le partager avec vous, la fidélité. Et l'endroit où on est planté. Mais après être planté, eh bien, il faut encore autre chose qui est important, qui n'est pas négligeable du tout. Et cela va un peu corroborer ce que je vous expliquais en entrée, en prenant la parabole des terrains et du semeur. Dans Colossiens, le chapitre 2, versets 4 à 7, l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, les versets 4 à 7. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, dit l'apôtre, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu qui ? Le Seigneur Jésus-Christ. Alors marchez en lui. Marchez en lui, mais avec ce qui découle du verset 7. Étant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui, ce qui va être le signe, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Planté. Fidélité. Près du courant d'eau, l'important d'être planté dans la parole de Dieu. Mais après nous lisons, enraciné. Écoutez, frères et sœurs en Christ, vous savez, on peut être planté, mais lorsqu'on est enraciné, c'est un autre degré. Pourquoi? Parce que moi, qui suis des Antilles, j'ai vu bien que côté de chez mes parents, il y avait des bananeraies. Dans la bananeraie, les bananiers sont plantés. Mais lorsque passe un cyclone, eh bien, beaucoup d'entre eux sont déracinés. Tandis que le cocotier, il est planté, mais quand vous regardez la constitution du cocotier dans son enracinement, on comprend pourquoi des fois, quand le cyclone passe, la tige bouge, le vent souffle, mais il reste enraciné. Autant fort souvent, près de la plage, on voit des cocotiers plantés près de la plage. Mais le cyclone est passé, mais ils sont restés debout. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder, les racines rentrent profondément dans la terre, et d'une manière insoupçonnée. Alors on comprend maintenant pourquoi le Saint-Écriture nous dit, planter, ça c'est la fidélité. Mais enraciner, cela dénote la stabilité. Vous savez, la vie chrétienne, un enfant de Dieu dans la vie chrétienne, planté en Christ et enraciné, il est stable. Et si l'apôtre mentionne ça ici, c'est parce que dans la ville de Colosse, cet faux docteur était passé. Il avait semé une fausse doctrine. Et si vous n'êtes pas enraciné, il y a le risque qu'une fausse doctrine soit si conséquente que vous soyez renversé. Planter, c'est une chose. Mais après, il faut être enraciné. Et quand Dieu t'enracine en Jésus-Christ, on peut te dire ce qu'on veut. Tu ne bouges pas. Et même ceux qui voudraient te faire bouger, ils seront obligés d'arriver à cette évidence. Avec celui-là, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait. Pourquoi? On a beau lui dire ceci, cela, il reste sur sa position. Pourquoi? Parce que sa position, c'est l'Écriture. Conforme à ce que Dieu dit. Alors si Dieu le dit, pas besoin de quelqu'un qui soit disant comme docteur de la loi ou une connaissance qui vient d'X ou d'Y, vienne essayer de me détourner de la simplicité de l'Évangile. Pour certains, c'est trop simple. Mais Dieu agit dans les choses tellement simples. Ils sont loin de la pensée de l'homme, mais quand je suis, dites avec moi. Mais oui, vous revenez toujours à ce que je veux dire, c'est bien. Mais dites-moi, quand je suis né de nouveau, je suis né de nouveau et enraciné, alors là, j'ai une stabilité comme enfant de Dieu. Vous savez, quand vous êtes stable, du 1er janvier au 31 décembre, du jour où vous avez cru dans le Seigneur et tout au long de votre marche chrétienne, vous suivez le même cap. Les yeux fixés sur l'enracinement dans sa parole. Et personne ne peut vous bouger. Quel que soit ce qu'on voudrait vous dire, quel que soit ce qu'on voudrait vous faire admettre, quelle que soit la séduisante, eh bien, doctrine qu'on voudrait vous proposer, vous avez cette réflexion? Christ m'est pleinement suffisant. Car la suffisance dans laquelle Dieu m'instruit, me conduit, c'est sa parole. Mon âme peut confesser en moi qu'elle a trouvé en Jésus-Christ celui en qui elle espérait. L'apôtre dit, justement aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout! Alors si j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? D'une doctrine qui, soi-disant, comme l'apôtre semblait revenir de nous? Non! Christ est mort pour mes péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, selon les Écritures. Il est ressuscité, toujours selon les Écritures. Il est à la droite du Père, selon les Écritures. Il revient pour nous chercher ceux qui l'attendent pour leur salut, conformément aux Écritures. Et quand vous avez ça, frères et sœurs en Christ, vous dansez de joie. Vous avez de l'assurance. Parce que derrière ce que je viens de vous dire là, enraciné, qui nous donne la stabilité, c'est cela qui nous donne aussi de là. J'ai entendu quelque part là. Vous voulez que je vous emmène à l'écriture? Allez, l'écriture. Et je vais vous donner le mot. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi. Cela vous donne de la fermeté. De la fermeté. Vous savez, quand vous avez de la fermeté, vous savez ce que vous faites? Le Saint-Esprit vous donne la capacité de fermer tout de suite les mauvaises portes. Parce que certains sont champions pour ouvrir des portes, mais des portes étrangères. Et quand vous avez la fermeté qui produit l'assurance, quand vous êtes planté, quand vous êtes enraciné en Christ, c'est fini. On n'est pas comme certains dont la Bible dit, ils sont à tout vent de doctrine. Et quand vous êtes à tout vent de doctrine, il y a le risque que le vent vous emporte. Des racines de Christ et vous mettez, amène à vous enraciner ailleurs, dans ce qui est faux. Et obligatoirement, quand vous êtes planté là où il ne faut pas, si moi vous dis qu'il n'y aura pas de fruits, ah, vous allez porter du fruit, d'accord, mais c'est votre nature humaine qui va se manifester. Mais bien aimé, logiquement, je devais déjà avoir fini la prédication, parce que le temps passe très vite, mais... Pour ce matin, nous allons nous arrêter là, et la prochaine fois, si Dieu veut, nous allons voir les autres points applicables à ce sujet ô combien important. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions le Seigneur.